Vous écoutez On lit pour vous.
L'information de qualité, un bien commun menacé, un texte de Guy Berger, paru le 2 juillet 2026 dans le courrier de l'UNESCO. Dans un monde où il devient chaque jour plus difficile de faire la part entre les nouvelles fiables et les contre-vérités, il est urgent d'agir pour défendre le droit à une information intègre. La notion d'intégrité de l'information fait beaucoup parler d'elle, et pour de bonnes raisons. Cette notion a émergé avec le mouvement mondial en faveur d'un environnement informationnel de qualité en 1991. Tout est parti d'une réunion de l'UNESCO réunissant des rédacteurs africains dans la Namibie nouvellement indépendante. Les acteurs des médias présents à cet événement ont rédigé la déclaration de Windhoek sur la promotion d'une presse africaine indépendante et pluraliste, ensuite approuvée par la Conférence générale de l'UNESCO. Les rédacteurs participants, dont deux avaient été libérés de prison pour l'occasion, étaient bien placés pour savoir ce qui se passe lorsque le public est privé d'une information juste, comment la censure met à mal la capacité d'une démocratie à résoudre pacifiquement les conflits. Ils avaient vu de près comment des décisions nationales prises sur la base d'informations erronées nuisent au développement national. Leur déclaration a donné lieu à une norme internationale importante qui reconnaît la nécessité de préserver la liberté de la presse. Captation des audiences. L'existence d'un journalisme libre et professionnel est en effet un élément essentiel à l'écosystème de la communication parce qu'elle permet de révéler la corruption, de dénoncer les violations des droits humains, de voter de manière éclairée, d'alerter sur le changement climatique ou de lutter contre les discriminations. C'est pourquoi l'Assemblée générale des Nations unies a reconnu le 3 mai comme la Journée mondiale de la liberté de la presse. Le journalisme apporte une contribution unique à la société. C'est particulièrement vrai dans le contexte actuel où l'information de qualité est éclipsée par des volumes croissants de divertissements, de contenus commerciaux et de ces plaies que sont la désinformation, la mésinformation et la malinformation. Nous savons ce qui est à l'œuvre. Des géants technologiques ont monopolisé des audiences massives et aspirer une grande part des revenus publicitaires, se souciant de moins en moins de l'intégrité de l'information. Les médias, de leur côté, ont vu leurs ressources se raréfier, tandis que les algorithmes réduisent la visibilité de leur contenu sur les réseaux sociaux. Les entreprises d'intelligence artificielle utilisent le travail des journalistes sans les créditer ni les rémunérer. La crise qui couve est le résultat de cette situation. Contenu trompeur. C'est dans ce contexte que s'est tenue la deuxième réunion de l'UNESCO en Namibie en 2021, 30 ans plus tard. Elle a donné lieu à la déclaration de Windhoek plus 30, qui tire la sonnette d'alarme et proclame l'information comme un bien public. Le bien public dont il est question concerne l'information intègre, aux antipodes des mensonges et autres contenus trompeurs qui prolifèrent. Cette information, digne de confiance, s'oppose aux fausses nouvelles qui violent les droits à la dignité, à la vie privée et à la santé publique. Elle s'oppose aux contre-vérités liées à des escroqueries et plus encore à celles qui alimentent la haine, l'intimidation, l'incitation et la guerre. Or, l'intégrité de l'information est aujourd'hui gravement menacée. Le rapport de l'UNESCO sur les tendances mondiales publié en 2025 montre que de nombreux médias sont la proie d'intérêts particuliers, tandis que des dirigeants autoritaires répriment les journalistes et autres lanceurs d'alerte. Transparence. L'intelligence artificielle générative amplifie encore ces phénomènes. Fondée sur des probabilités, s'appuyant sur des volumes massifs de données, elle produit des contenus plausibles sous forme de textes, d'images et d'audio qui alimentent la confusion. Alors que de fausses interfaces humaines sont conçues pour paraître très convaincantes, l'exactitude et la fiabilité des résultats ne sont pas garanties. Il devient difficile de distinguer les données de qualité des autres. Par ailleurs, les langues et les systèmes de connaissances minoritaires sont totalement marginalisés. Pour aggraver encore la situation, des gouvernements et des broligarques influents à la tête d'entreprises technologiques orientent les informations générées par l'IA au service d'idéologies étroites. Cette obscurité informationnelle ne constitue rien de moins qu'un défi existentiel pour l'humanité. Elle compromet la capacité de décision de chacun dans une société mondiale où plus personne ne sait réellement distinguer le vrai du faux. Face à ces défis, peut-on encore agir pour défendre une information intègre, abordable et accessible? La note d'orientation sur l'intégrité de l'information sur les plateformes numériques, publiée par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en juin 2023, plaide pour des politiques favorisant un journalisme indépendant, libre et pluraliste. Elle exige de la transparence des entreprises technologiques qui jouent un rôle majeur dans la dégradation de l'intégrité de l'information. En outre, les résolutions des Nations unies appellent à des solutions visant à renforcer la résilience des sociétés grâce à l'éducation, aux médias et à la coopération internationale. La mise en œuvre de ces orientations doit s'accompagner d'un respect total de la liberté d'expression et d'un soutien au journalisme face aux intérêts politiques et économiques. Les plateformes doivent améliorer la modération des contenus dans les langues de leurs utilisateurs et renforcer leur soutien à une vérification indépendante des faits. Les contenus générés par l'IA devraient être clairement signalés, et pour cela, les entreprises technologiques doivent permettre aux chercheurs et aux régulateurs d'accéder à leurs données. En outre, les algorithmes devraient mettre en avant les informations de qualité. Au lieu de recommander n'importe quel contenu médiocre au motif qu'il est susceptible de capter l'attention. L'inaction n'est pas une option. Une information fiable n'est pas un luxe. Il existe de véritables bénéfices à considérer l'information comme un bien public mondial. Au fil des années, les journalistes se sont mobilisés pour défendre la cause d'une information intègre. Aujourd'hui, c'est à notre tour de prendre position. L'intégrité humaine passe par l'intégrité de l'information. C'était L'information de qualité, un bien commun menacé, un texte de Guy Berger, paru le 2 juillet 2026 dans le courrier de l'UNESCO.
FIFA Connexion, la face cachée du système Gianni Infantino. Un texte d'Ismaël Oudassine, paru le 2 juillet 2026 dans Le Devoir. D'un stade à l'autre, la Coupe du monde de soccer se déploie aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Mais derrière le spectacle sportif se joue une autre compétition, celle de l'argent roi, de l'influence et du pouvoir. À Los Angeles, où il a notamment couvert le passage de l'équipe de l'Iran aux États-Unis, Simon Boll en mesure chaque jour la portée. Pour le grand reporter de l'équipe, ce mondial rappelle que le ballon rond ne se limite pas aux pelouses. C'est précisément cet aspect méconnu du sport le plus populaire de la planète que Simon Boll explore dans son essai « FIFA Connexion ». Fruit de 2 années d'enquête menées entre les États-Unis et les pays du Golfe, en passant par la Suisse, l'ouvrage retrace l'ascension de Gianni Infantino et montre comment le président de la Fédération internationale de football Association, FIFA, s'est imposé, en moins d'une décennie, parmi les dirigeants les plus influents de la planète. Pour y parvenir, le journaliste français a rencontré plus d'une centaine de sources et a épluché des milliers de documents afin de décrypter les mécanismes de pouvoir qui régissent aujourd'hui la FIFA ainsi que son flamboyant président. C'était un personnage finalement peu connu du grand public. Il m'intriguait parce qu'il était parti de presque rien avant de prendre la main sur le football mondial en quelques mois, relate Simon Boll en entrevue téléphonique. Dès les premiers chapitres, le journaliste montre que son véritable sujet n'est pas seulement le président de la FIFA, mais le système dont Gianni Infantino est aujourd'hui la figure la plus emblématique. Infantino est le fil conducteur d'une machine qui avale tout sur son passage, résume-t-il. Selon l'auteur, cette mécanique n'est pourtant pas née avec l'Italo-Suisse. Elle existait déjà avant lui, mais s'est renforcée sous sa présidence. Cette évolution est d'autant plus intrigante que rien ne semblait prédestiner Gianni Infantino à un tel destin. Fils d'immigrés italiens installés en Suisse, polyglotte, il découvre le football par les clubs amateurs. Mais, au fil des années, une autre facette s'impose peu à peu. Son instinct politique aigu, doublé de méthodes de plus en plus clivantes. On sent que l'homme carbure au sentiment de revanche sociale et professionnelle. Peut-être n'avait-il plus envie d'être condamné au second rôle. Une FIFA toute-puissante. Élu en 2016 dans le contexte explosif du FIFA Gate, un vaste scandale de corruption qui a révélé les pratiques opaques au sommet du football mondial, emporté Sepp Blatter et brisé les ambitions de Michel Platini, Gianni Infantino promet alors une institution plus transparente, plus indépendante et recentrée sur le sport. À l'époque, son discours consistait à remettre le foot au premier plan et à limiter les interventions politiques dans les affaires de la FIFA, rappelle Simon Boll. Près de 10 ans plus tard, le constat dressé dans son livre est bien différent. Le journaliste dépeint une institution à laquelle ses 13 milliards de dollars américains de revenus prévus pour le cycle 2023-2026 confèrent désormais une force politique considérable et sans équivalent dans le monde sportif. Gianni Infantino est désormais convié aux grands rendez-vous internationaux, du G7 au G20, jusqu'au sommet sur Gaza organisé en Égypte en octobre 2025 par Donald Trump. Souligne-t-il. Un statut inédit qui place le président de la FIFA dans l'orbite des chefs d'État, y compris les plus autoritaires. Il multiplie les apparitions aux côtés de leaders souvent controversés, de Vladimir Poutine lors du mondial russe aux dirigeants qataris en 2022, en passant par le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman, dont le pays accueillera la Coupe du monde de 2034. Cette diplomatie des sommets trouve son expression la plus aboutie dans sa relation avec le président Trump. Aux États-Unis, où se joue une portion majeure du Mondial 2026, ce rapprochement revêt une dimension hautement stratégique. Simon Boll n'y voit pas seulement une affinité personnelle. La FIFA ne peut se permettre de froisser Washington, indique le journaliste. Une part essentielle de ses revenus dépend du succès de la compétition. On est face à un dirigeant américain imprévisible. La FIFA et son président adoptent donc une ligne conciliante, évitant toute friction, sans vexer, pour être sûr que tout se passe bien et empocher le jackpot à la fin de l'année. Le soccer devient alors autant un instrument diplomatique qu'une formidable machine à générer des revenus. Cette transformation nourrit l'un des fils rouges de l'enquête de Simon Boll. La FIFA, association à but non lucratif sur papier, fonctionne comme une multinationale, mentionne-t-il. Son congrès rassemble 211 fédérations, chacune disposant d'une voix. Or, ces fédérations bénéficient aussi des programmes de développement financés par l'institution. Selon le journaliste, ce mécanisme contribue au maintien d'Infantino à la tête de la FIFA. Comme l'affirment certaines de ses sources, la frontière est parfois floue entre le développement et le clientélisme, explique-t-il. Les critiques existent, mais elles émanent surtout des syndicats de joueurs, des supporters, des ONG et des ligues européennes. À l'intérieur de la FIFA, les oppositions se font beaucoup plus rares. Mur du silence. C'est là que se dessine ce que l'auteur décrit comme une forme d'omerta. L'enquête a été longue et souvent parfois frustrante. « J'ai été confronté à un mur du silence », raconte Simon Boll. Si une centaine de sources ont fini par lui parler, beaucoup d'autres ont refusé ou n'ont jamais répondu. Certains craignaient des sanctions. Plusieurs, même éloignés de la FIFA, redoutaient encore de compromettre leur carrière, souffle-t-il. Gianni Infantino lui-même a refusé de répondre aux multiples demandes d'entrevue du journaliste. Le président de la FIFA parle désormais peu aux médias traditionnels, préférant les interventions encadrées ainsi que les forums, les conférences et les plateformes plus favorables. Celui qui promettait de réformer la FIFA semble désormais avoir adopté les méthodes qu'il disait vouloir combattre. Avec ses 48 équipes, ses 104 matchs, ses déplacements à l'échelle d'un continent, son empreinte environnementale et ses billets au prix prohibitif, le Mondial nord-américain incarne, pour le journaliste, cette fuite en avant. Le refus de Montréal d'accueillir des rencontres illustre aussi les contraintes et les exigences imposées aux villes hôtes. C'était FIFA Connexion, la face cachée du système Gianni Infantino. Un texte d'Ismaël Oudassine, paru le 2 juillet 2026 dans Le Devoir.
Le 12 août, j'achète un livre québécois. Maude Jarry, Une vie sans enfant. Une entrevue réalisée par Isabelle Beaulieu parut le 9 juin 2026 dans la revue Les Libraires. Après avoir publié en 2019 « Si j'étais un motel, j'afficherais jamais complet »,« Ta mère », un recueil de poésie à la langue directe et déliée, Maude Jarry fait paraître 6 ans plus tard « La mère des larves », un premier roman pour lequel elle a remporté 2 des récompenses québécoises les plus courues, le prix littéraire des collégiens et collégiennes et le prix des libraires du Québec. Le thème qu'il aborde n'est sûrement pas étranger à son succès. La misogynie médicale, sujet qui ne remonte pas à hier, mais qu'on commence tout juste à sortir de l'ombre, laisse dans la souffrance et la confusion un grand nombre de femmes. Prendre des décisions quant à l'intégrité de son propre corps semble pourtant tout ce qu'il y a de plus légitime, mais pour la narratrice du livre, ce sera un véritable parcours de la combattante. Sarah s'est récemment fait laisser par Gabriel après 8 années d'amour et de complicité. Leur lien ne s'était pas à proprement étiolé. La raison s'avère plus pragmatique. Il voulait avoir un enfant, elle n'en voulait pas. À aucun moment n'est évoquée la motivation du personnage à écarter l'expérience de la maternité. Après tout, ajoute Maud Jarry, rencontré dans un café du Vieux-Montréal, on ne demande pas à une personne qui souhaite des enfants pourquoi elle en veut. Le refus de la parentalité mériterait une même considération. Une femme ne devrait pas avoir à justifier les choix qui concernent sa vie, pas plus qu'elle ne devrait être affublée du mal imaginaire lorsqu'elle tente d'expliquer à un spécialiste de la santé les maux qui l'assaillent. C'est pourtant ce qui arrive à Sarah. Éprouvant des douleurs au ventre, en plus d'espérer en vain le consentement d'un médecin pour une intervention visant à la rendre stérile. Je pense que c'est la médecine qui, historiquement, est très misogyne, paternaliste, raciste. Ça englobe plein d'autres problématiques aussi, notamment envers les communautés marginalisées. Pour le livre, j'ai dû faire beaucoup de recherches sur l'histoire de la gynécologie, qui est absolument dégueulasse et épouvantable, révèle Maud Jarry. Les recherches lui apportent néanmoins l'impression d'en apprendre tout un rayon dans une multitude de domaines. Je trouve ça le fun parce que l'écriture, ça me permet un peu de faire plein de jobs que j'aurais aimé faire. Ouverte au possible, la littérature favorise en quelque sorte une destinée augmentée. Une revendication incomprise. La règle du deux poids deux mesures se trouve malheureusement appliquée quand il s'agit de reproduction. Les attentes ne sont pas égales selon que l'on est un homme ou une femme. Cette dernière recevant davantage les foudres de commentaires l'obligeant à constamment répondre de ses décisions. Le rôle social qu'on attend d'elle ne correspond pas au désir de Sarah de faire sa vie sans enfant. On l'entend avec la montée des discours natalistes en ce moment, poursuit Jarry, rappelant qu'en France, notamment, une lettre est envoyée aux jeunes de 29 ans dans le but qu'ils et elles réfléchissent à la possibilité de se reproduire, allant jusqu'à mentionner l'option de congeler gamètes et ovules. Si aujourd'hui les curés ne passent plus dans les maisons pour questionner les femmes sur leur prochaine grossesse, le gouvernement s'en charge. Sarah Dubuc, la narratrice du livre, bataille donc à faire reconnaître son droit à la non-procréation et en parallèle à chercher de l'aide pour ses souffrances physiques. Sans compter la peine d'amour de laquelle elle doit se relever, le déclin cognitif qui affecte sa grand-mère et la présence d'une mère envahissante qui ne recule devant rien pour assurer le devenir fertile de sa fille. Jusqu'à lui proposer une retraite dans un monastère aux mœurs douteuses, administré par la communauté du cœur saignant de Marie. Le mauvais sort semble jeter son dévolu sur Sarah, comme pour nous rappeler que la liberté des femmes est toujours très chère payée. Et ce n'est que lorsqu'elle s'écroule sur l'asphalte que l'on commence à croire qu'elle ne va réellement pas bien. Afin de supporter l'anéantissement de son existence et faire résistance à la situation, la protagoniste fait preuve d'ironie, allant parfois même jusqu'au sarcasme, un procédé délibéré de la part de Maud Jarry. Le cynisme de Sarah est à la fois son moteur et son mécanisme de défense. Aussi, ça me permettait d'ajouter une couche d'humour dans le livre parce qu'on s'entend que c'est assez intense, assez dense, j'avais donc envie d'alléger certains passages. Plusieurs morceaux relèvent d'un aspect plus fantastique à cause du mal inconnu qui la tenaille, son chat Richard et ceux de la clinique vétérinaire où elle travaille deviennent agressifs à son endroit, un passage inspiré du film Alien et d'autres presque mystiques, l'imposition sur son abdomen des mains de sa grand-mère, une mamie à la conscience intermittente qui semble pourtant détenir une compréhension surnaturelle de ce qui ronge sa petite fille. La mort en face. L'autrice décrit également avec une précision chirurgicale le processus de décomposition d'un macabé par les larves. Elle a d'ailleurs pratiqué à une époque antérieure le métier d'embaumeuse, sujet qui sera à l'honneur dans son prochain livre. Non, Maud Jarry ne fait pas dans l'euphémisme. Oui, ça nous confronte à notre statut de mortel, mais quand tu réalises que ta vie n'est pas éternelle, c'est là que tu veux vivre la vie que tu as envie de vivre. Ce qui pousse Sarah à contrer le malheur et à assumer complètement sa volonté d'être une nullipare. Même si la notion de couple n'est pas explicitement exploitée dans le roman, on perçoit un malaise dans l'univers hétérosexuel. Gabriel a réussi à scorer une femme à qui il arrivait pas à la cheville, une tendance lourde, mais si commune chez les hommes de mon entourage, exprime la narratrice. Si on avait pu demander à Sarah comment se portent les relations hommes-femmes en 2026, il est fort probable, selon Maud Jarry, qu'elle dirait que c'est ordinaire. Violence, féminicide, déséquilibre dans les rapports de la fameuse charge mentale, montée du masculinisme, propos haineux exacerbés envers les femmes, tout ça ne concourt pas à améliorer les droits de celles-ci sur leur corps. Endossant plusieurs genres littéraires, l'autrice avoue éprouver beaucoup d'admiration pour les écrivaines flirtant avec l'horreur et la weird fiction. Littérature de l'étrange, telles que Mariana Enriquez, Mona Awad, Carmen Maria Machado, Julia Armfield. D'une façon plus ou moins consciente, elles sont toutes à leur manière des figures d'émulation. Le roman « La mère des larves », imaginé dès 2010 alors que son autrice était à l'université, suscite chez elle bien des surprises par les prestigieuses récompenses qu'il accumule. Elle les reçoit avec beaucoup d'étonnement et de gratitude, honnêtement. C'est quelque chose à quoi on pense pas vraiment quand on écrit. C'est comme une espèce de plus un peu fou qui semble un peu inaccessible. Je suis encore en train de le processer. Je réalise pas encore. Une franche revanche pour Sarah qui se relève de bien des affronts. C'était le 12 août. J'achète un livre québécois. Maud Jarry, Une vie sans enfant. Une entrevue réalisée par Isabelle Beaulieu. Paru le 9 juin 2026 dans la revue Les Libraires.